chapitre de fête. Je n'ai rien dit après parce que je crois que après ce qu'on a lu, on n'a plus qu'à se taire. Je remercie tous ceux qui et toutes celles, parce que les sœurs ouvrirent largement leur part, ce qui était bien du reste. Le noviciat se réveille. Très bien, c'est les trois grandes qualités de la vie. jamais s'arrêter, toujours vouloir aller plus loin, creuser toujours plus, et ne pas s'arrêter aux choses secondes. Dès qu'on touche quelque chose d'absolu, on ne peut plus s'arrêter, parce que c'est l'absolu qui nous porte à aller toujours plus loin. Et on sait que cet absolu, quand il est l'amour de Dieu, il est infini. Voyez, cet autre Jean, qui est Jean de la Croix, que nous aimons aussi, c'est pas notre Père au sens absolu. Jamais placé, c'est-à-dire toujours avoir soif d'aller plus loin. Ne jamais croire qu'on sait. Et que la parole de Dieu, c'est infini. C'est infini. Et que des saints comme saint Thomas, d'une certaine manière aussi, c'est infini. On leur lie indéfiniment. Il y a certaines choses comme ça importantes qu'on creuse indéfiniment. Oui, notre vie liée à Saint Jean n'est pas une vie d'extension. Notre apostolat doit être un apostolat sans limite. Mais notre formation n'est pas une formation d'extension. C'est tout à fait différent. C'est une formation qui pénètre. Être lié à cette sainteté et comprendre que l'Esprit Saint veut nous lier à cette sainteté. Je crois que c'est cela que l'Esprit Saint attend de nous. Et c'est important de le comprendre. Et de temps en temps, faire porter son examen de conscience à la manière joannique sur ces trois aspects. Est-ce que nous vivons cette perspicacité de l'intelligence? Est-ce que nous avons une soif de vie, de cette pureté du cœur? Est-ce que nous avons suffisamment d'élan, cette volonté de toujours tout reprendre? Alors, c'est quelque chose qui maintient en nous une jeunesse, divine. Que Saint Jean soit notre Père et qu'il nous aide à nous sanctifier, à devenir des saints authentiques. Pas nécessairement rechercher la canonisation. Ça, on ne la recherche pas. Les saints qui veulent être canonisés, ça sent qu'ils voient un peu le souverain. Tandis qu'au contraire, ceux qui désirent être cachés, très cachés, et de plus en plus cachés, derrière Jean, pour être ceux qui attendent le retour du Christ, puisque Jean est quand même celui qui a proclamé dans l'Église la nécessité de cette espérance eschatologique avec l'Apocalypse. Si on lit l'Apocalypse, si on s'en nourrit, si on se nourrit du petit livre, c'est pour justement avoir cette espérance de plus en plus forte et de plus en plus pure. Cette espérance eschatologique, cette espérance du retour du Christ. Pas d'une façon dramatique, pas d'une façon angoissée, de la manière la plus simple qui soit. La plus vraie, je crois que c'est Jean qui nous donne ça. Cette sainteté de celui qui peut tout abandonner, tout le temps, parce qu'il est saisi et appelé par le Christ. Saint Jean nous a tout donné un très grand sens de la charité fraternelle. La première épître. Un très très grand sens. Là aussi, on n'ira jamais assez loin dans la charité fraternelle. Et je dis bien la charité fraternelle, je ne dis pas la vie commune. C'est deux choses différentes. La sainteté ne consiste pas à vouloir toujours au niveau de la vie commune, même quand c'est très intelligent. On vit au-delà, toujours. La vie commune est un fruit. On doit vivre du mystère de la charité fraternelle avec une très grande intensité. Aimer ses frères, ce que Dieu a mis sur notre route, c'est pas nous qui les avons choisis, c'est Dieu qui les a choisis pour nous. Aimer ses frères, ça nous aide énormément à pouvoir aimer tous les hommes. C'est ça la charité fraternelle, c'est aimer tous les hommes, sans exclure personne, et les aimer tels qu'ils sont, avec leurs grandes qualités et leurs défauts, leur lourdeur, mais aussi avec leurs élans. Il faut que nous ayons un très grand amour de nos frères. Et par le fait même, il faut demander à Saint Jean de nous donner un très grand amour de notre communauté, notre congrégation. Il faut avoir un très grand amour, non pas du tout pour l'exalter, mettre une auréole, déjà, vous voyez, ça sent le souverain. Et on doit pas, on doit toujours être d'une très grande humilité. spécialement sur ceux que le Seigneur met plus proches, ceux avec qui on a fait le noviciat, ceux avec qui on a peiné pendant les études. C'est merveilleux, pas de compréhension. Pendant un an, on n'a rien compris, on a été docile. Et une fois pendant 2 ans, on n'a rien compris, on a été docile et fidèle. Alors il y a des liens comme ça qui se font. Et c'est vrai, ce sont des liens très très forts. Et c'est bon, ça. C'est nécessaire. D'ici quelques années, vous tiendrez les vieux des plus jeunes. Et vous devrez les porter, leur faire comprendre que de votre temps, on s'aimait beaucoup. Ne l'oubliez. Et vous aurez quelques petits exemples, n'est-ce pas, qui sont particulièrement nets. Et qui montrent qu'on s'aimait beaucoup. On pouvait se dire les quatre vérités. Après s'embrasser avec d'autant plus de joie qu'on sait qu'on est tous des pauvres et qu'on est tous à se faire pardonner. Et c'est vrai, on est tous à se faire pardonner. Et dès qu'on juge durement, ce n'est plus fraternel. La correction fraternelle n'est pas le murmure et la correction fraternelle n'est pas la critique. Et il faut arriver petit à petit. C'est très difficile, mais c'est la grande victoire de l'Esprit Saint sur notre esprit critique. Je dis bien notre culture critique. Ce primat de la négation dans la philosophie moderne. La grande victoire de l'Esprit Saint, c'est de maintenir en nous quelque chose de premier, qui est de s'aimer. C'est un peu fou. Vous savez bien ce que disait Huysmans, il ne faut jamais l'oublier quand on vit dans une communauté féminine. Il ne l'a pas dit pour les hommes parce qu'il était un homme, mais s'il y avait une femme qui aurait été comme Huysmans, elle l'aurait dit pour les hommes, ça c'est sûr. Ça fait partie de la charité fraternelle, mutuelle, des uns et des autres. Et Huysmans a déclaré que pour lui c'était le signe le plus net de la divinité de l'Église, que des femmes puissent vivre ensemble. Et que des hommes peuvent vivre ensemble, en s'estimant et en s'aimant, et en se pardonnant, et en s'aimant profondément. Ceci c'est pour vous rappeler cette chose essentielle de demander à Saint Jean qu'il soit notre Père, pour répondre au désir du Christ. Si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour. C'est quand même Jésus qui dit ça. Et il dit ça à Pierre. Il dit ça à Pierre pour bien montrer que ce n'est pas à Pierre qu'il le confie. Donc il le confie au Saint-Esprit. À son esprit. Et il le confie à Jean. Et ça c'est le rôle de Jean. De faire que son esprit demeure. Son esprit c'est bien. Ce que saint Thomas a précisé. Perspicacité de l'intelligence, pureté du cœur, jeunesse. L'esprit de saint Jean dans l'Église et dans le monde d'aujourd'hui, pour que cela demeure. Vous voyez, c'est quand même curieux que Jésus a dit les deux choses. Quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore la foi? Et si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour. C'est quand même les deux extrêmes. L'un que Jésus constate avec douleur et l'autre qui est le désir du cœur du Christ. Dans la soif du cœur du Christ, nous devons, nous, recevoir ce désir du Christ. Et nous devons considérer que ce désir du Christ, c'est nous qui devons le réaliser. Que l'Esprit de Saint Jean demeure pour le retour du Christ, et que c'est chacun d'entre nous, sans ça qu'on est tous responsables de toute la communauté, de toute la congrégation, chacun. Une fois qu'on a compris ça, on ne se critique plus. C'est impossible de se critiquer si on sait que chacun est responsable de maintenir le désir du cœur de Jésus. C'est quand même quelque chose, et c'est dit à Pierre, donc c'est au niveau de l'Église. vous savez que l'évangile de Saint Jean, au-delà de l'Apocalypse, au-delà de la première épître, doit être pour nous le livre auquel nous revenons tout le temps. Avec cette conviction intérieure que nous n'avons encore pas saisi grand-chose. Et c'est vrai, quand on arrivera au ciel, tous, ça j'en suis sûr, tous, et les grands théologiens en premier lieu, ils diront ah, c'est invraisemblable qu'on n'avait pas compris ça. Et c'était dit en toutes lettres. C'était dit pour nous. Et nous l'avons lu 100 fois, 1000 fois, on n'a rien compris. Parce qu'on n'a pas assez demandé à l'Esprit Saint et à la Vierge Marie de nous l'expliquer. Vous savez bien, dans nos diverses lectures de Saint Jean, parce qu'il y en a diverses, exprès pour bien montrer que nous regardons cette œuvre qui est la prunelle de l'Église, qui est la perle. Père Feuillet le disait avec beaucoup de force, je vous ai rappelé ça, quand on lui montrait ce que certains exégètes modernes pouvaient dire sur Saint Jean, en voulant reconstituer divers Saint Jean, et donc détruire l'œuvre. L'œuvre de Jean et de l'Esprit Saint. Alors on demandait au Père Feuillet s'il n'allait pas faire un compte-rendu. Et le Père Feuillet a simplement répondu, ça me fait trop mal, je peux pas. Parce que toucher à ce qui est la perle de toute la révélation, ça me fait trop mal. Je ne peux que me taire. On comprend très bien ça. On comprend très bien que certaines choses blessent quelqu'un qui fréquente beaucoup, beaucoup l'évangile de Saint Jean. Et qu'on a compris donc l'ordre de sagesse intérieure. L'ordre que Marie a dû comprendre. C'était sa bien-sciée. Hein. Or, il est bien évident que l'évangile de Saint Jean a une source cachée, souterrain, très très profond, qui est le cœur de Marie. Ça me semble absolument impossible, puisque Jean la reçoit à la croix. Le double testament de Jean, le testament de Jésus, le testament de Marie, le testament de Marie, puisqu'elle est la bonne mère, c'est elle qui garde la parole de Dieu. Et donc, il la communique à Jean. Et donc, l'évangile de Jean, et pour nous la perle à laquelle nous devons tout le temps venir. L'évangile de Jean nous parle de Jésus. L'évangile de Jean nous montre la pédagogie du Christ dans sa vie apostolique. Et Jésus n'a pas fait d'autres enseignements pédagogiques de pastoral, comme on dit aujourd'hui, un enseignement catéchétique autre que lui-même de vivre au milieu de ses apôtres. C'est du reste très très beau ça. C'est comme ça qu'on peut témoigner et qu'on peut enseigner. C'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Il les a éduqués par sa vie apostolique et dans sa vie apostolique. Première année, deuxième année, troisième année, trois cycles successifs. Et ça nous est donné dans l'évangile de Jean. Et on peut découvrir très bien ces grands aspects de la pédagogie du Christ sur les hommes, sur son peuple, et sur ceux qui sont autour de son peuple, et ceux qui sont plus loin. Mais on peut aussi faire ce que j'essaie de faire actuellement, un sage d'art pour les novices et donc pour nous tous, novices du Saint-Esprit, d'essayer d'écouter l'évangile de Jean. Vie d'une âme. Vous voyez bien, histoire d'une âme. Jean n'a pas raconté son histoire, parce qu'il n'avait pas de maîtresse de novice. Alors il n'a pas raconté son histoire. Saint-Esprit lui a permis d'être dans le silence. Il n'y avait que Jésus qui l'intéressait, et Marie. Mais je suis persuadé que Jean, étant instrument de l'Esprit Saint quand il écrit son évangile, il est aussi l'ami. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. Et donc, il y a un respect de l'Esprit Saint à l'égard de Jean. Fait que chaque fois que Jean nous révèle Jésus, il nous révèle ce qu'il est. Je crois qu'on peut le dire en toute vérité. Chaque fois que Jean nous révèle Jésus, puisque de fait, il nous donne sur Jésus des quantités de choses que les synoptiques ne nous donnent pas. Il y a un regard sur Jésus de Jean qui va très loin. Je crois qu'on peut dire que chaque fois que Jean nous révèle plus avant Jésus, il nous révèle l'œuvre de l'Esprit Saint en lui. Comment l'Esprit Saint sculpte, puisqu'il est surtout sculpteur, l'Esprit Saint, sculpte l'image du Christ en lui. Fais de lui un vrai disciple bien-aimé, un vrai fils bien-aimé du Père, en qui le Père peut mettre toutes ses complaisances, aimer toutes ses complaisances. Je crois que nous pouvons le dire ça en toute vérité. Il y a quelque chose de tellement grand là. Découvrir le cœur de Jean. Si c'est notre père, c'est notre devoir de le faire. Et si c'est notre père, c'est notre devoir de le faire. Et nous savons que nous avons la grâce du Saint-Esprit pour pouvoir le faire. Et découvrir à travers tout l'évangile de Saint Jean ce qu'est Saint Jean. Soit tous pétris bonnes pâtes.
Découvert, Jean peut communiquer le secret de Marie.
tout plus intime de son cœur. Les secrets, quand ils sont très, très secrets en nous, ne peuvent se décoller de notre cœur que si nous les découvrons d'une autre manière. C'est toujours comme ça, même pour les secrets humains. Il n'y a qu'à y réfléchir. Et bien alors, vous trahissez. C'est le mystère de la seconde personne de la très sainte Trinité, c'est le fruit de la contemplation du Père. Au commencement, dans la source, le Verbe était. Il est auprès de Dieu. Il est tourné vers Dieu. Puisqu'il provient de lui, il est tourné vers Dieu. Et il ne fait qu'un avec Dieu. C'est ce mystère du Verbe qui est, je crois, la contemplation de Jean à la suite de Marie. Et nous devons tout le temps revenir à cette affirmation, le Verbe est devenu chair. Il est devenu chair. Il est devenu chair à travers Marie et par Marie. Il a pris un visage d'homme.
Cette vision de sagesse à la croix. Et c'est très peu.
possible que ce soit après. Je n'en sais rien, mais c'est très possible. Et que Marie ait communiqué ça comme un grand testament d'amour. C'est très possible, on verra ça dans le ciel. Mais c'est pas du tout impossible. Et ça m'étonnerait pas. Et que Marie lui ait communiqué. regardez dans le prologue les deux moments où il y a cette vision sur Jean. Et c'est Jean, Jean tout court. Même si, à première vue descriptivement, sens littéral, gros problème. Sens littéral premier, c'est bien évident que c'est Jean-Baptiste. Sens mystique, c'est Jean, le disciple bien-aimé. C'est le sens caché. C'est un sens direct, c'est le regard de Marie à la croix. Marie à la croix, mais le regard de Jean. C'est impossible autrement. Et comme Jean est très disciple de Marie, lui il regarde Jean-Baptiste. Et donc il met Jean-Baptiste à la place. C'est merveilleux. Vous voyez, ça c'est les tours de passe du Saint-Esprit. Quand on comprend bien ce qu'est le Saint-Esprit il joue énormément. C'est pour ça que les gens trop sérieux ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est impossible. Absolument pas comprendre. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas écrire des choses qui soient difficiles à comprendre? C'est impossible, trop d'amour. Une mère n'enseigne jamais des choses difficiles à ses enfants. Jamais. C'est les professeurs qui enseignent des choses difficiles. Ils enseignent des choses difficiles parce que leur intelligence n'est pas assez pénétrante. Alors ils s'enveloppent d'un langage difficile que personne ne comprend. Pour pouvoir dire, quand on pose une question, vous n'êtes pas très intelligent, vous devriez comprendre. C'est ce que la Sainte Vierge disait à ce bon prêtre belge, je ne sais pas. Mais oui, les professeurs, c'est toujours un peu difficile à comprendre. Surtout quand ils sont jeunes. C'est toujours un peu difficile à comprendre. La Sainte Vierge résumée et donner des petits résumés. C'est très beau ça. Et la Sainte Vierge donne toujours des petits résumés. Et qui sont beaucoup plus profonds que tout le reste. Alors, je crois que ça c'est ce jeu extraordinaire du Saint-Esprit. Dans le prologue, Jean-Baptiste, ça ne peut être que Jean. C'est impossible autrement. Puisque Jean-Baptiste, il est de l'ancienne alliance. C'est Jean qui est la nouvelle alliance. Alors les deux gens font le lien. Mais Jean nous donne le secret. Disparaître. Laisser passer devant. Laisser passer devant. Celui qui vient. Celui qui est devant lui. On le laisse passer. Celui qui vient après lui, on le laisse passer devant. Et on le laisse passer devant parce qu'il était avant. Alors, je crois que c'est le grand secret. C'est le grand secret de la véritable humilité. C'est le grand secret de l'amour. L'amour laisse passer devant. On s'impose jamais. Jamais. On vous dira, vous auriez dû dire, vous n'avez pas entendu. Vous ne pouvez pas dire. On laisse passer devant. Alors demandez à Saint Jean comme cadeau de fête. Parce qu'il faut lui demander un cadeau de fête. Individuellement et communautairement. Communautairement, je laisse le prieur demander le cadeau de fête. Parce que c'est la communauté. Moi, je le demande au niveau de la congrégation. Et au niveau de la congrégation, je ne vous le dis pas. Parce que ça, c'est des secrets avec Saint Jean. Quelques secrets avec ça. Et le parfrier n'a pas besoin de le dire par la communauté. Il le garde dans son cœur. Et individuellement, il faut que chacun d'entre nous demande à Saint-Jean un cadeau, un don. Perspicacité de l'intelligence, pureté du cœur. Demandez pas les trois. et ce que vous avez découvert progressivement dans un genre, demandez-lui. C'est un père qui veut vous communiquer ce qu'il a vécu.